Bonjour à tous, nous sommes en direct de la Cité des Sciences sur les ondes de la Wikiradio du CNRS et voici le 7e débat de ce week-end et nous allons aborder pendant l'heure qui va suivre l'innovation dans le domaine des maladies mentales avec de nouvelles approches, des approches originales, des approches étonnantes. Ces innovations sont destinées à mieux comprendre certaines pathologies. Elles sont aussi destinées à mieux soigner. Alors on va en parler avec Francis Eustache. Bonjour Monsieur Eustache.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes directeur d'une unité de recherche INSERM à Caen. Vous êtes chercheur donc. Vous n'êtes pas médecin, on peut le souligner. Vous êtes neuropsychologue. Mais vous êtes une référence quand on parle de la mémoire et des maladies de la mémoire. Et vous nous direz comment notamment on étudie la mémoire et comment les smartphones et les tablettes peuvent aider à prendre en charge des patients. Sophie Sacca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Poitiers. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes. Vous êtes chargée de mission à l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes. Vous êtes une spécialiste en robotique humanoïde. Vous travaillez sur l'imitation du mouvement humain. Et puis vous menez des expériences inédites au CHU de Nantes dans le traitement des troubles autistiques. Vous nous raconterez tout ça. Jean-Louis Viovi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe macromolécules et microsystèmes en biologie et en médecine à l'Institut Curie. Et avec votre équipe, vous faites pousser des neurones. Alors c'est destiné à la recherche, c'est destiné aussi à tester de nouveaux médicaments. Mais on pourrait, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure, on pourrait peut-être imaginer dans un futur proche utiliser cette technique dans le cadre d'une médecine régénérative comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Daniel Mestre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut des sciences du mouvement à Aix-Marseille Université. Vous êtes responsable scientifique du Centre de réalité virtuelle de la Méditerranée. Vous êtes psychologue de formation et vous nous raconterez comment on peut traiter les phobies grâce à la réalité virtuelle. Vous avez inventé en fait la cyberthérapie, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis avec nous, Sonia Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Télécom Sud Paris et vous travaillez sur l'analyse de l'écriture manuscrite sur tablette pour la détection précoce des maladies d'Alzheimer. Vous nous raconterez ça en détail, bien sûr, dans un instant. Alors, pour commencer, on va aborder les techniques qui permettent de mieux comprendre les maladies mentales. Francis Eustache, parmi les technologies qui sont à la disposition des chercheurs comme vous pour mieux comprendre le cerveau, il y a l'imagerie. L'imagerie a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. On parle d'imagerie cérébrale, on parle d'imagerie multimodale. Vous allez nous dire ce que permet l'imagerie aujourd'hui.
Alors effectivement, l'imagerie, c'est une voie d'entrée royale, on pourrait dire, dans l'univers du cerveau. Je dirige un centre à Caen qui s'appelle Cicéron, qui a fêté ses 30 ans. Donc ça donne un peu l'échelle de temps. Bon, l'imagerie existait déjà auparavant, mais elle s'est vraiment développée au cours de ces 30 dernières années, et peut-être plus encore ces 10 dernières années. Alors, ce qui est intéressant, vous avez utilisé le mot d'imagerie multimodale, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une technique pour comprendre le fonctionnement du cerveau, mais on a maintenant des techniques. Alors, des mots qui sont connus du grand public, comme l'imagerie par résonance magnétique.
L'IRM.
L'IRM, voilà, qu'on peut utiliser en tant que patient si on a une fracture, qui peut s'adresser en quelque sorte à des organes très divers. Alors, si on se concentre sur le cerveau, c'est vrai que dans ce domaine, les avancées ont été majeures. Eh bien, déjà, on va pouvoir visualiser le cerveau anatomique avec une grande précision chez une personne vivante, ce qui paraît banal aujourd'hui, ce qui ne l'a pas été pendant des siècles. Et on essayait de comprendre le cerveau, mais on n'avait pas accès à ce cerveau vivant, anatomique.
Alors, vous dites une personne vivante, c'est totalement non-intrusif.
On
peut passer autant d'IRM que l'on veut, ce n'est pas dangereux.
Oui. Et votre question est très importante, parce que ça permet, par exemple, aujourd'hui, des travaux chez les enfants, qui sont arrivés plus tard et qui permettent maintenant de comprendre la maturation cérébrale de façon très précise, donc dans l'espèce humaine, et bien sûr en même temps de comprendre des modifications dans certaines pathologies. Donc Ça, c'est une avancée considérable.
Ça va jusqu'à quelle précision ?
Alors, ça va aux précisions de l'ordre. Ça dépend, en fait, des techniques. Mmh. Là, on rentre un petit peu dans le détail.
Non, mais on est sur l'IRM, là. Mmh.
Oui. Sur l'IRM, on est à peu près de l'ordre du millimètre. Mais après, on peut faire des focales beaucoup plus précises. Ça va dépendre du temps d'acquisition, ça va dépendre des machines. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Parce que, bien sûr, c'est important d'insister sur les techniques, sur les outils qui sont fondamentaux. C'est avec eux qu'on... C'est avec ces outils et c'est avec les collègues qui les mettent au point, qui mettent au point de nouvelles séquences que l'on avance. Mais en même temps, la recherche sont aussi des questions. Je crois que c'est très très important que le chercheur garde la maîtrise des questions. Et en fonction des questions, en fonction des protocoles, on fait des choix. Un patient, par exemple, ne peut pas bénéficier d'examens trop longs. Et donc l'imagerie multimodale, ben, c'est aussi un choix dans ces protocoles. Parce que si on veut avoir une résolution très très précise, ben, on va allonger le temps de mesure et on ne va pas faire autre chose.
Alors, imagerie multimodale, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous nous avez parlé de l'IRM, mais l'imagerie multimodale, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je vous ai parlé de l'IRM très succinctement. Avec une de ses utilisations, c'est l'imagerie anatomique. Mais l'IRM, on peut l'utiliser d'autres façons. On peut l'utiliser déjà sur le plan anatomique de différentes façons. On peut maintenant étudier les fibres qui connectent les différentes régions cérébrales, les différentes régions du cortex. Ça, c'est un domaine nouveau. C'est l'imagerie du tenseur de diffusion. Et puis surtout, l'IRM, il y a la partie fonctionnelle. On peut l'utiliser pour voir le fonctionnement du cerveau dans des tâches diverses. Ça, c'est une révolution qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Et puis on peut utiliser, c'est vraiment le sens de l'imagerie multimodale, d'autres outils. Donc là, on quitte l'IRM. Et puis, il y a une mesure phare de l'imagerie cérébrale qui est la tomographie par émission de positons, la TEP. Tomographie par émission de positons. Là, on utilise des produits radio marqués, ce qu'on appelle des radiopharmaceutiques. Alors c'est un petit peu plus invasif que l'IRM. C'est la raison pour laquelle on va l'utiliser plutôt chez des patients, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce sont des doses de radioactivité qui sont infimes. Mmh. Et de toute façon, quand on est chercheur, quelle que soit la modalité d'imagerie, on demande le consentement de la personne, on explique le protocole qui est proposé à la personne.
Quand on parle d'imagerie multimodale, ça veut dire qu'on croise plusieurs techniques,
plusieurs technologies. Oui, on croise plusieurs techniques, plusieurs modalités dans un protocole de recherche qui va permettre, en associant ces différentes mesures et éventuellement d'autres mesures, par exemple des mesures cognitives. Bon, par exemple, dans mon unité de recherche, on travaille sur la mémoire et plus largement sur la cognition, la cognition sociale, les fonctions exécutives, l'attention, etc. Et donc, on travaille sur des maladies de la mémoire et de la cognition. Donc,
alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec l'imagerie multimodale, avec l'IRM, avec les TEP dont vous avez parlé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre?
Alors, par exemple, on peut comprendre comment un processus dégénératif qui provoque une atrophie, c'est-à-dire qui provoque des lésions dans certaines régions du cerveau, par exemple, une région qui est très importante pour la mémoire, qui s'appelle l'hippocampe, qui ressemble un petit peu à l'hippocampe qu'on imagine, mm-hmm. qui fait à peu près 8 à 10 cm de long à la face interne des lobes temporaux. Et dans une maladie comme la maladie d'Alzheimer, la première zone d'atrophie se situe dans l'hippocampe. Alors on peut visualiser ça très très tôt, et on peut visualiser, donc en utilisant une autre technique d'imagerie, par exemple la tomographie par émission de positons, les conséquences de cette lésion. Et ça, c'est très important, parce qu'on voit que la lésion provoque des effets, parfois, à distance très très longue de cette source, en quelque sorte, de cette première lésion. Ça, c'est un premier résultat qui est très important. Puis, deuxième résultat, on peut voir aussi des mécanismes compensatoires. C'est-à-dire que si on propose des tâches, par exemple des tâches de mémoire, des tâches d'attention à des patients à différents stades de la maladie, eh bien, on va voir qu'il n'y a pas simplement des relations entre une lésion, un dysfonctionnement, mais on est en présence de mécanismes beaucoup plus complexes, absolument passionnants, parce qu'on voit qu'en fait que le cerveau cerveau-esprit de la personne
se débrouille.
En quelque sorte, oui, met en place des mécanismes qui lui permettent de compenser pendant un certain temps les effets de la maladie. Et on va pouvoir également croiser cela avec des données qui paraissent a priori très différentes, des données par exemple socio-démographiques, où on va voir que la personne, compte tenu de la vie, de ce qu'elle a fait auparavant, de son mode de vie, de ses relations à la connaissance, etc., eh bien, ces mécanismes vont être plus ou moins incisifs, vont être plus ou moins importants. Et c'est ce qu'on appelle le concept de réserve cognitive. Vous voyez. Et donc, l'imagerie, elle est intéressante dans ce cadre-là, quand elle permet de comprendre vraiment des aspects beaucoup plus scientifiques, hein, des questions scientifiques qui vont au-delà, bien sûr, de la technique. Avec beaucoup de respect hein, que j'ai, bien entendu, pour mes collègues et amis qui travaillent sur la mise au point des techniques.
Francis Eustache, on va revenir vers vous tout à l'heure, mais vous avez parlé de la maladie d'Alzheimer. Sonia Garcia, vous êtes professeure à Télécom Sud Paris et vous travaillez aussi sur ce sujet avec une technique qui n'a rien à voir avec l'IRM, avec l'imagerie. Vous travaillez à partir de tablettes. Alors, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, nous analysons en fait l'écriture manuscrite qu'on appelle en ligne, c'est-à-dire acquise sur une tablette graphique. C'est une tablette sur laquelle on peut poser une feuille de papier et avec un stylo spécial, en fait, écrire normalement. L'idée étant que la personne soit dans des conditions naturelles, évidemment.
Donc, où est-ce qu'elle est, cette personne qui écrit ? Elle est dans un cabinet médical ? Où est-ce qu'elle est ?
Tout à fait. Elle pourrait être à l'hôpital Broca, avec qui nous collaborons dans ce projet, lors d'une première consultation pour un pré-diagnostic. Donc la personne pourrait par exemple réaliser un test lors de cette occasion afin qu'on lui dise il y a une dégradation de votre écriture déjà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la tablette permet de mesurer de manière très très fine des caractéristiques temporelles, cinématiques du tracé qu'effectue la personne, et que l'écriture étant une activité de haut niveau qui fait appel à des fonctions exécutives de planification, d'anticipation, de régulation de la vitesse lorsqu'on va tracer l'image mentale, la représentation mentale qu'a la personne. Donc on se rend compte que finalement, lorsqu'il y a maladie neurodégénérative, ces facultés sont impactées et donc ça a un impact sur l'écriture elle-même.
Même si vous ne connaissez pas l'écriture de cette personne, son écriture d'avant.
Oui, tout à fait. Même si on ne la connaît pas, en fait, on est justement amené à faire une étude sur l'influence de l'âge sur l'écriture pour être à même de discerner ce qui est de l'ordre d'un vieillissement normal et de l'ordre de quelque chose de pathologique.
Mais donc, qu'est-ce que vous voyez, par exemple ? Qu'est-ce qui fait que quand une personne est malade, elle écrit de quelle façon ?
Alors, ça peut être, par exemple, des saccades extrêmement importantes. Voilà. Et donc, comme on a une résolution temporelle très fine, on est capable de les détecter localement. Voilà. Ça peut être une vitesse très très lente. La personne peut être amenée à vouloir avoir un geste crispé pour pouvoir écrire correctement, vous voyez, et donc elle va ralentir énormément. Voilà, c'est des paramètres cinématiques finalement qui nous permettent de voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas typique de la catégorie d'âge de la personne.
Car ce que vous analysez, ce n'est pas la page d'écriture, mais c'est comment la personne écrit.
Absolument, c'est le geste qu'on va analyser avec des mesures temporelles, des mesures cinématiques, et on peut aussi analyser des caractéristiques spatiales comme la longueur des traits que va faire la personne. Au niveau de mesures temporelles, ça va être la durée du mouvement, par exemple. On peut aussi analyser la trace du stylo lorsqu'il est levé à moins d'un centimètre de la tablette, ce qui est très informant sur les hésitations que réalise la personne lorsqu'elle va recopier un texte, par exemple, qu'on va lui proposer d'écrire. Vous voyez ? Donc voilà, à partir d'un texte, on peut déjà extraire pas mal d'informations sur comment écrit la personne.
Est-ce que c'est un test qui est couramment proposé aujourd'hui ou bien est-ce que c'est proposé dans quelques endroits seulement ?
En fait, c'est de l'ordre de la recherche aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, il y a quelques équipes qui travaillent là-dessus et nous travaillons donc avec mon collègue, le professeur Mounim El Yacoubi, chez nous, à Télécom Sud Paris, au département électronique et physique. Et nous travaillons également en collaboration avec l'hôpital Broca, le service gériatrie, avec le professeur Anne-Sophie Rigaud, qui est spécialiste de la maladie d'Alzheimer.
Alors, on a vu l'imagerie, on a vu comment, avec des tablettes, on peut analyser à l'écriture pour comprendre certaines maladies neurodégénératives. Jean-Louis Viovier, vous allez nous raconter ce que vous faites pour comprendre le cerveau. Il y a des techniques, des technologies qui viennent de la physique et de la chimie.
Oui, absolument. D'une certaine façon, on voit déjà en quelques intervenants à quel point la notion d'aspect multimodal que mentionnait Francis Eustache est importante. C'est que nous, on est totalement à l'autre bout du spectre quelque part, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau moléculaire et au niveau cellulaire. Puisque c'est, par exemple, dans le cadre des maladies neurodégénératives, c'est ces dégradations. Donc vous voyez avec les techniques fonctionnelles ou simplement d'imagerie, elles proviennent au départ de dysfonctionnements au niveau des molécules elles-mêmes, comme par exemple une simple protéine qui va être coupée au mauvais endroit, va commencer à se comporter anormalement, va induire des déconnexions neuronales qui, au bout du compte, vont être à l'origine de tous les problèmes fonctionnels qu'on voit ensuite. Et alors, pour étudier ça, on a deux approches. On a une approche diagnostique qui va finalement chercher à repérer ces dégradations au niveau moléculaire le plus tôt possible. Et avec des méthodes, évidemment, là aussi, aussi peu invasives que possible.
Donc alors, ça, vous allez nous expliquer ce que vous faites.
Voilà. Alors,
c'est très original.
Ce qu'on fait ce qu'on appelle des laboratoires sur puce. Alors, tout le monde connaît la microélectronique. Hein, on imagine bien la microélectronique. On fait tous ces circuits extrêmement miniaturisés qui vont permettre de faire des opérations très complexes. Ben, en fait, il s'est développé depuis une vingtaine d'années une technique qui s'appelle la microfluidique, qui va faire la même chose, mais avec des fluides et des objets biologiques. C'est-à-dire qu'on va construire, en empruntant ces technologies de la microélectronique, des circuiteries, soit pour des fluides biologiques, soit pour des cellules, et pouvoir donc organiser, d'une part, effectuer sur les fluides des opérations complexes, donc faire ces microprocesseurs d'analyse, et également organiser les cellules de façon complexe.
Donc c'est un mélange entre la microélectronique et le vivant.
Voilà, exactement. On marie en quelque sorte les savoir-faire de la microélectronique et du vivant.
Et je vais faire court et vous allez me dire si je dis juste ou pas. Mm-hmm. J'ai compris que vous cultiviez des neurones sur ces puces.
Oui, absolument. Mais alors ça, par contre, c'est pas pour la dimension diagnostique. C'est vraiment pour la dimension cognitive, c'est-à-dire que les biologistes se sont rendus compte que ces déconnexions, ces altérations des fonctions du cerveau étaient associées à des modifications dans les connexions neuronales et que ça ne se passait pas au hasard, parce qu'il y a des hypothèses, qu'il y a des formes de contagion de neurone à neurone qui vont faire que les choses se propagent et altèrent peu à peu le fonctionnement du cerveau. Donc nous, ce qu'on va faire, comme ça se passe, c'est des choses qui se passent à l'échelle cellulaire, qui aujourd'hui au moins ne sont pas accessibles aux techniques d'imagerie globale, c'est qu'on va essayer de faire des modèles qu'on appelle des organes sur puce, dans lesquels on va faire pousser des neurones en reconstruisant du mieux possible les connexions et les architectures, les connexions entre les différentes populations de neurones.
Donc comme dans le cerveau.
Se rapprocher le plus possible de ce qui se passe localement dans le cerveau, sachant qu'évidemment on est très très loin de pouvoir faire un système complet, mais au moins pour comprendre comment ces signaux toxiques et comment la dégradation au niveau moléculaire se passe entre les différentes cellules, ça donne un espèce de chaînon manquant entre ce qu'on peut faire avec des cultures de cellules conventionnelles au hasard et ce qu'on peut regarder dans un organisme vivant.
Jean-Louis Viovi, Francis Eustache, est-ce que ce que vous faites tous les deux est complémentaire ?
Oui, bien sûr, parce que sinon...
Francis Eustache.
Je pense qu'on n'avancerait pas. Peut-être qu'un chaînon manquant que je n'ai pas abordé tout à l'heure, c'est l'imagerie moléculaire. C'est le nouvel invité dans l'imagerie multimodale, c'est-à-dire que ce que j'avais évoqué jusqu'à présent, que ce soit l'atrophie cérébrale, que ce soit les les baisses du métabolisme cérébral, ce sont des conséquences de la maladie. Et aujourd'hui, on a des moyens d'accéder aux grandes pistes physiopathologiques de la maladie, et c'est l'imagerie moléculaire. Alors, c'est par exemple visualiser les plaques amyloïdes chez les patients. Et ça, c'est très très récent, puisque la première publication, c'est 2004. Et aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont tout du moins dans les laboratoires. Elles ne sont pas encore dans tous les hôpitaux, mais ce sont des techniques qui sont dans les laboratoires. Et maintenant, dans les laboratoires, on commence à avoir aussi l'imagerie d'une autre grande piste physiopathologique de la maladie d'Alzheimer, qui est l'imagerie tau, c'est-à-dire les dégénérescences neurofibrillaires. Et avec tout cela, eh bien, on comprend à la fois les mécanismes que j'ai décrits tout à l'heure, mais on les comprend cette fois-ci au niveau vraiment moléculaire.
Jean-Louis Viovi, qu'est-ce que, avec les technologies que vous avez développées, quels sont les diagnostics que vous pouvez poser et comment vous pouvez aider les médecins à mieux comprendre certaines pathologies ?
Alors, du côté diagnostic, on utilise ces cultures de cellules. On peut, pour le moment, en tout cas, on n'a pas tellement de pistes pour les utiliser de façon diagnostique, puisque on ne peut pas aller prélever des neurones chez un patient. Donc, côté diagnostic, ce qu'on fait est assez différent, c'est-à-dire on va utiliser ces laboratoires sur puce comme des espèces de super instruments d'analyse pour aller détecter dans notre rêve qui n'est pas pour le moment encore réalité, c'est d'aller détecter dans le sang des signatures moléculaires de ces dégradations le plus tôt possible. Parce que comme l'a dit Francis Eustache, une des potentialités extraordinaires du cerveau, c'est de pouvoir se réorganiser. C'est ce qui nous permet de récupérer après des accidents, etc. Mais vis-à-vis du diagnostic, ça a un gros inconvénient, c'est que tout le cerveau finalement reconstitue en permanence les fonctions qu'il perd, et ce qui fait que les diagnostics fonctionnels dont on vient de parler par ailleurs arrivent relativement tard. Alors on a l'espoir de pouvoir... Par contre, ces dégradations moléculaires, elles, arrivent très très tôt. Mais par contre, comme il y a cette barrière hémato-encéphalique qui fait qu'on a peu de reflets dans le sang de ce qui se passe dans le cerveau, les marqueurs sont à des concentrations très très faibles, et donc il faut faire des progrès en termes de sensibilité, de résolution, de compréhension. Donc ça, c'est un aspect, on va dire, bioanalytique.
Mais à partir de quand les technologies sur lesquelles vous travaillez seront mises à la disposition du corps médical ?
Alors, au niveau diagnostic, c'est déjà utilisé, mais sur une technique malheureusement plus invasive, qui est le liquide céphalorachidien. Mm-hmm. Donc là, on voit bien qu'on ne va pas faire en screening des ponctions lombaires à tous les gens de plus de 40 ans pour voir s'ils ont des Alzheimer précoces. Donc c'est quelque chose qui, pour le coup, ne peut être qu'assez tardif. Par contre, là où on a des applications qui arrivent déjà dans la vraie vie, on va dire, c'est plutôt ces cultures de neurones dont j'ai parlé un petit peu, qui commencent à être utilisées par l'industrie pharmaceutique en tant qu'outil de recherche et en tant qu'outil de criblage de médicaments.
C'est-à-dire qu'on peut tester des médicaments sur ces neurones qui auront été cultivés sur puce plutôt que de les tester sur des humains.
Voilà, alors ça, ça dépasse de beaucoup là, l'aspect des maladies neurologiques. Hein. C'est toute cette vague de développement de ce qu'on appelle les organes on-chip ou organes sur puce. L'idée est qu'en effet, plus on progresse dans tout ce qu'on appelle les étapes précliniques, c'est-à-dire le meilleur et la compréhension qu'on arrive à obtenir avant de commencer aux études cliniques. Et malheureusement, là, on en a eu récemment l'exemple, c'est très rare, mais il y a encore des accidents en phase clinique de temps en temps. Et même indépendamment de cet aspect de sécurité des patients, si on améliore les étapes précliniques, du coup, on va diminuer beaucoup le coût de développement des médicaments et on va aller plus vite, puisque on pourra se permettre d'avoir des étapes cliniques plus courtes. Alors en quoi ces laboratoires sur puce peuvent aider ? C'est-à-dire qu'on reconstitue donc dans des systèmes artificiels, à partir de cellules, des choses qui vont représenter le mieux possible les organes dans leur organisation à l'intérieur du corps et dans leurs fonctions. et donc aller essayer de pousser le plus loin qu'on peut les études de toxicité, par exemple, et les, bien sûr les études d'efficacité.
Alors vous dites à partir de cellules, elles viennent d'où ces cellules ?
Alors les cellules, bon, on peut travailler à partir de cellules animales. Donc là, ce qu'on gagne dans ce cas-là, c'est qu'on gagne par rapport aux expérimentations animales. Mais grâce au progrès des cellules souches, et ça, c'est ça sur l'aspect sans doute le plus important, c'est qu'on peut maintenant faire ces études à partir de cellules qui vont être des cellules humaines. Par exemple, on sait différencier des cellules provenant de la peau d'une personne, donc quelque chose de très peu invasif, mm-hmm. pour en refaire des neurones. Donc ça, c'est des choses qu'on développe avec iSTEM, qui c'est une spécialité de ça, et qu'on va intégrer dans nos laboratoires sur puce pour pouvoir ensuite fournir ces modèles à l'industrie pharmaceutique.
Si j'ai bien compris, le diagnostic précoce et le plus précoce possible, c'est vraiment une clé pour mieux comprendre et mieux soigner, Francis Eustache.
C'est une clé, bien sûr, mais dans les maladies qu'on évoque tout de suite, comme les maladies dégénératives, il y a également d'autres problèmes. Il n'y a pas que les aspects techniques, il faut aussi mettre en avant les aspects éthiques. Et donc, c'est bien sûr un objectif sur le long terme, mais qui doit être mesuré tout le temps qu'on n'a pas des traitements, on va dire, incisifs de ces maladies. Il ne s'agit pas de faire du dépistage, du diagnostic précoce, oui. C'est-à-dire quand la personne se plaint, quand la personne fait la démarche de venir à l'hôpital ou d'aller voir son médecin. Donc là, il faut répondre, il faut que le dispositif sanitaire soit de qualité. L'imagerie fait partie de ce dispositif. Mais dans un ensemble, dans une consultation pluridisciplinaire avec des médecins bien formés, des neuropsychologues bien formés. Donc ça, c'est très important. Tout le temps qu'on n'a pas de traitement, il y a des traitements aujourd'hui, mais qui sont des traitements uniquement symptomatiques.
Alors, on a parlé du diagnostic. Maintenant, on va parler des soins. Les nouvelles technologies sont aussi des aides précieuses pour les chercheurs. Elles sont des aides précieuses pour les chercheurs. Elles permettent aussi de soigner. Daniel Mestre, expliquez-nous comment la réalité virtuelle peut venir à bout des phobies comme la peur du vide.
Alors, l'histoire de la réalité virtuelle et de la phobie, c'est la rencontre entre deux mondes qui sont d'une part ceux de la réalité virtuelle, qui est un monde vaste dont on pourrait parler, mais peut-être pas ici, mais qui en gros permet de créer des situations virtuelles qui possèdent des caractéristiques de la réalité, donc qui permettent effectivement de convaincre plus ou moins les personnes qui y sont exposées qu'ils sont face à une réalité. Et la thérapie, dans notre cas, on est loin effectivement du niveau moléculaire, on est sur des thérapies comportementales, c'est une vieille histoire. La thérapie des phobies, c'est une vieille histoire. Ça consiste en gros à désensibiliser quelqu'un à une phobie. Des phobies, il y en a des dizaines, des centaines.
Le des vide, de les tout. Araignées.
Le vendredi 13. Tout apparemment peut être phobie. Donc l'idée, c'est en gros, pour caricaturer, c'est que la phobie d'une personne n'est pas une maladie. C'est un traumatisme qui n'a pas vraiment de base physiologique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le modélise actuellement. Et donc, on va, en exposant de manière répétitive la personne à sa phobie, de manière contrôlée, on va petit à petit la convaincre qu'elle n'a pas de raison d'avoir peur. Du voilà. Vide, en l'occurrence.
Je connais des psychiatres qui emmènent leurs patients dans le métro à l'heure de pointe pour leur faire comprendre que la foule, ce n'est pas si dangereux.
Voilà, ou on peut monter en haut de la tour Eiffel pour faire comprendre à quelqu'un qu'il ne va pas mourir parce qu'il est en haut de la tour Eiffel. Donc ces thérapies-là existent depuis longtemps. Et l'avantage très pragmatique, très simple, quelque part, de la réalité virtuelle, c'est de ne plus avoir besoin d'emmener quelqu'un en haut de la tour Eiffel et de le mettre simplement en haut d'une tour Eiffel virtuelle.
Alors, comment ça se passe, concrètement ?
Concrètement, on est sur un protocole qui est quand même relativement contrôlé ici. On reçoit des patients, le médecin qui est responsable de l'étude clinique reçoit des patients en consultation, leur fait des tests pour vérifier qu'ils ont bien peur, en l'occurrence, du vide. Mais ça pourrait être une autre pathologie. On a pris la phobie du vide parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du vide. Donc on vérifie qu'ils ont bien peur du vide. Et après, on les embarque dans une aventure qui consiste à les exposer à de la réalité virtuelle pendant 8 sessions. Où, petit à petit, on va les faire passer dans des situations qui leur font, a priori, de plus en plus peur.
Vous les mettez où ? Ils sont où ?
Alors, sont comment ? Concrètement, on les met dans... dans le, au centre de réalité virtuelle de la Méditerranée, qui est à Marseille, à Lumini.
Mais ça se passait quoi? C'est dans une pièce spécifique?
C'est ce qu'on appelle un cube, un cave en anglais, un cube en français, une voûte en québécois. C'est un environnement multi-écran dans lequel le sujet pénètre. Et donc, en gros, il est submergé par la stimulation qui vient tout autour de lui.
Il est tout seul? Il est accompagné?
Il n'est pas tout seul. Il est accompagné du thérapeute.
Donc là, vous pouvez lui dire, ben voilà, vous êtes au troisième étage de la Tour Eiffel.
Voilà. Donc l'avantage, c'est l'avantage de la réalité virtuelle, très, très simple, c'est qu'on peut faire varier la hauteur. On peut, de manière instantanée, entre guillemets, faire passer le patient, si on prend l'exemple de la Tour Eiffel, du sol au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage.
Et là, au troisième étage, vous enlevez les barrières?
On peut ou pas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du protocole, mais on peut soit donner au patient le pouvoir de contrôler lui-même sa stimulation, soit c'est le thérapeute qui contrôle un peu l'intensité. En gros, l'idée, encore une fois assez simple, et qui vient vraiment des thérapies comportementales historiquement, c'est de faire monter le niveau à un niveau d'angoisse suffisant, pas trop, mais suffisant, et à partir de là, de faire diminuer progressivement l'angoisse.
Alors aujourd'hui, vous travaillez sur la peur du vide, mais toutes les phobies peuvent y passer finalement?
Oui, je pense. Hein. Les premiers exemples que je connais de ce que vous avez appelé la cyberthérapie, donc qui est l'association de la réalité virtuelle et de la thérapie comportementale, ça a été fait à Seattle sur la peur des araignées.
Donc on expose des phobiques à des araignées virtuelles.
Même principe. La première fois, la personne, on va lui montrer une araignée à 10 mètres, elle va partir en courant. La deuxième fois, elle sera à 5 mètres, à 3 mètres, jusqu'à éventuellement permettre à la personne de toucher.
Alors, combien de personnes sont passées dans votre cube à ce jour ?
On est sur un protocole où, je pense, à la fin de l'année, on va arriver à avoir 20 patients qui auront fait une exposition, un traitement complet.
Et vous avez déjà des résultats ? Vous pouvez parler des résultats ?
Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, assez simplement, c'est que les sujets demandent à venir. Il y a le côté... un buzz aussi de la réalité virtuelle aujourd'hui, et les gens sont enthousiastes pour venir. Les patients qu'on a vus jusqu'au bout, pour l'instant, sont plutôt satisfaits. Première chose, c'est important, ils sont contents. Et plusieurs patients nous ont dit qu'ils avaient de nouveau réussi à marcher en montagne, par exemple. Donc il y a effectivement, objectivement, des résultats positifs.
Est-ce que la peur du vide, Francis Eustache, ça peut se voir à l'IRM, que dans un cerveau?
Il y a des travaux effectivement sur la question. On peut voir beaucoup de choses. On peut fabriquer, élaborer des protocoles d'imagerie dans des domaines extrêmement divers. Et donc une réaction aussi intense, de peur aussi intense, bien entendu. Il y a un circuit de la peur qui est maintenant bien connu, et on peut mesurer les effets de ce type de thérapeutique.
Donc encore peut-être des choses à faire ensemble. Vous ne travaillez pas pour le moment avec des spécialistes de la réalité virtuelle?
Je développe aussi des travaux en réalité virtuelle. Alors, on a aussi la chance d'avoir un centre qui a été beaucoup aidé par le CNRS qui vient d'ouvrir à Caen, qui s'appelle le CIREV, avec un cube aussi, tel que mon collègue vient de le décrire. Et puis, on fait aussi des travaux plus simples, avec des outils plus simples, qui sont déjà proposés à des patients. Donc... il y a l'imagerie cérébrale, mais il y a aussi le comportement. C'est très important. Pour ça, quand j'écoutais les travaux sur la tablette de Sonia Garcia, je trouvais ça très intéressant. Et donc, on travaille sur des formes de mémoire qui sont très importantes dans la vie courante, notamment la mémoire prospective. Parce que la mémoire, on pense toujours au passé. La mémoire est associée souvent à des images du passé. Mais c'est aussi... fabriquer des intentions, former des intentions.
Il faut que j'aille acheter le pain, voilà, il faut pas que j'oublie de fermer la porte.
Le gaz, etc. Et c'est en fait une forme de mémoire qui est extrêmement importante pour l'adaptation comportementale de la personne. Alors c'est ce type de simulation que l'on étudie avec des outils beaucoup plus simples.
Qu'est-ce que vous faites? Racontez.
Eh bien, on a fabriqué, avec l'aide du musée mémorial de Caen, avec lequel on a de multiples collaborations, mais sur lequel je ne m'étendrai pas. On est dans le domaine de la neurohistoire, donc je n'aborderai pas ça, parce que je pense que c'est un petit peu en dehors, pour l'instant, des liens avec les maladies cérébrales. C'est un autre objectif. Non, on a modélisé le musée mémorial de Caen, qui est un très grand musée, certaines salles du musée, Et donc, les personnes font comme si elles visitaient le musée. Et là aussi, elles ont un certain nombre de tâches à faire. Et donc, oui, on est dans une situation qui est assez banale. Enfin, banale, donc, intéressante.
Mais elles ont des tablettes.
Et alors, ça se passe devant un écran, hein, devant un écran, une projection. La tablette, c'est autre chose. C'est encore un autre projet. Travaille beaucoup dans l'unité. Les chercheurs travaillent beaucoup.
Alors, terminez avec l'écran. On passera aux tablettes après.
Et on détecte comme ça des difficultés à anticiper. C'est-à-dire que la personne a un certain nombre de tâches, en principe, à faire. Et on va voir si elle est capable de maintenir le fait de faire une tâche à un moment donné. Ça, c'est important. Et également le contenu de cette tâche. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a savoir qu'il faut faire quelque chose à un moment donné, et puis savoir également le contenu de cette chose. Donc on va étudier comme ça les différents éléments de cette mémoire prospective, mais là aussi, un petit peu comme pour la Tour Eiffel, comme de tout à l'heure, dans un cadre totalement anodin. Et un élément aussi qui est très important, c'est de voir si la personne se souvient qu'elle a fait la tâche. Parce qu'en fait, les problèmes de mémoire prospective, c'est savoir qu'il faut faire la tâche, mais également se souvenir qu'on a fait la tâche. Par exemple, les médicaments. Les médicaments, c'est typiquement une question qu'il faut maîtriser dans la vie courante, parce qu'il faut prendre des médicaments, mais il ne faut pas les prendre plusieurs fois.
Alors, Sophie Sacca, vous nous raconterez l'histoire des tablettes tout à l'heure, Francis Eustache, mais Sophie Sacca, qui est à votre gauche, qui est roboticienne, j'aimerais bien vous entendre nous parler de vos travaux. Alors, vous travaillez, on va faire bref, mais vous travaillez sur des robots humanoïdes.
Oui, tout à fait.
Expliquez-nous.
Donc, ce sont des robots de forme humaine, hein, qui ont donc deux jambes, un tronc, une tête, deux bras, et qui, s'ils sont à l'échelle humaine, vont nous permettre de reproduire finalement des comportements qui normalement sont réalisés par les humains, et éventuellement de tester des nouvelles technologies à partir de là.
Alors, on est un petit peu loin des maladies mentales. Vos recherches sont destinées à aider des personnes handicapées, par exemple ?
Exactement. Alors, on n'est pas si loin que ça, parce que dans le cadre des prothèses, par exemple, donc actuellement, il existe des prothèses qui vont se greffer sur le système nerveux de la personne. Donc, on réassigne des nerfs pour commander les membres artificiels. Si la personne souffre d'une dégénérescence nerveuse, évidemment, le système ne peut plus marcher, puisque le signal qui est envoyé à la machine est complètement perturbé. Donc là, mon travail, moi, consiste à établir des lois mathématiques qui vont modéliser l'équilibre humain, le traduire pour la machine et combler une éventuelle déficience, justement combler d'autres problèmes que pourrait rencontrer la personne, autre que cette prothèse qu'il a à la jambe.
Vous réussissez à faire remarcher des gens avec les prothèses ?
Alors pas encore, parce que les modèles qu'on développe... Alors les robots humanoïdes ne marchent pas comme des humains actuellement, d'accord ? Ils marchent un petit peu en canard, bon c'est pas très joli, on fait des progrès, mais globalement les lois mathématiques qui gèrent l'équilibre humanoïde ou celles qui gèrent l'équilibre humain ne sont pas communes. Donc il est très difficile de connecter une partie artificielle et une partie naturelle si les lois de commande ne sont pas les mêmes.
Et pour les bras, c'est pareil ?
C'est moins problématique parce que les bras ne gèrent pas l'équilibre. Si vous marchez sur les mains, oui, c'est le même problème. Mais là, vous êtes sur vos jambes, vous imaginez une personne qui va faire ses courses. Si elle perd l'équilibre, c'est tout le reste de l'organisme qui est menacé. Donc il faut vraiment qu'elle puisse tenir l'équilibre et qu'elle le tienne pour plus de 10 minutes d'autonomie. Un robot humanoïde actuellement, c'est 12 minutes d'autonomie. Donc vous voyez, pour aller au supermarché et revenir, c'est très, très juste.
À quel horizon est-ce que vous imaginez pouvoir implanter ces prothèses pour des handicapés ?
Ça dépend. Alors là, on est de plus en plus nombreux. Donc on peut voir un horizon beaucoup plus court qu'avant. Avant, on aurait répondu d'ici 50 ans, parce qu'il y avait une poignée de gens qui travaillaient là-dessus. Aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux. Et en plus, on commence à communiquer en interdomaine, puisque c'est très compliqué hein, comme système. Du coup, on peut voir ça entre 10 et 20 ans maintenant, en échéance, pour les premiers... Alors, les prothèses qui sont connectées au système nerveux sont déjà testées, sont déjà en test, hein, aux États-Unis en l'occurrence. Souvent pour des militaires, donc des gens qui sont surentraînés et qui ont un mental extrêmement fort. Pour le tout public, vous voyez, il faut quand même un petit peu d'entraînement et un petit peu de force pour réussir à faire face aux membres artificiels.
Et pourquoi est-ce qu'il faut un mental fort ?
Parce que vous avez un apprentissage, parce que vous venez de subir une agression quelque part. Hein. Votre corps n'est plus le même. Hein. Il faut vous insérer dans une société qui n'est pas forcément très ouverte toujours au handicap ou à la différence d'une manière générale. Donc c'est pas facile. Et puis vous avez la machine, mais la machine n'est pas comme votre jambe. Vous avez des limites. Il faut accepter ses limites, il faut accepter de les assumer complètement, puisque la machine n'assumera pas pour vous, malheureusement.
Sophie Sacca, donc vous travaillez sur ces robots humanoïdes destinés aux handicapés, et puis il y a une deuxième application pour les robots, et ça c'est quelque chose qui existe vraiment. Vous menez des expériences au CHU de Nantes.
Alors, je mène des expériences, donc cette fois-ci c'est pour au niveau de la communication. J'utilise le robot humanoïde pour améliorer la fonction de communication chez des jeunes autistes. Donc le robot est utilisé comme un danseur d'ombre, c'est-à-dire la personne désire dire quelque chose, elle ne peut pas le faire pour une raison quelconque, et du coup elle peut le faire dire par le robot. Donc elle va taper le texte, elle va faire dire des choses au robot, et en fait on se cache derrière cette image, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le robot.
Alors le robot ressemble à quoi ?
Donc c'est un petit robot humanoïde, c'est le robot d'Aldébaran Robotics que beaucoup de gens connaissent maintenant. Il fait 58 cm de haut, à peu près 5,5 kg.
Il a une bonne petite bouille.
Une très belle tête. Il a une très bonne tête. On tombe amoureux facilement de ce robot. Et donc, avec le CHU de Nantes, Stéréolux, l'école centrale de Nantes, enfin, il y a plusieurs partenaires, nous avons monté un projet de recherche pour vérifier en fait, les capacités des jeunes autistes à acquérir des compétences de communication par le biais de ce robot humanoïde.
Qu'est-ce que ça donne ?
Les résultats sont extraordinaires, donc, et sur le long terme. C'est-à-dire on a des changements permanents du comportement, avec une ouverture, une attention à l'autre. Les changements sont extraordinaires. C'est plus les mêmes. On est en train d'établir un protocole en 20 séances que nous nous préparons à divulguer d'ici la fin de l'année.
Ils ont quel âge, ces autistes ?
Le groupe témoin avait entre 11 et 14 ans.
Et donc, vous voyez déjà des résultats très intéressants.
En 20 séances, oui, oui. Là, on est dans la deuxième phase sur ce même groupe pour vérifier si les progrès, finalement, continuent sur la même pente ou s'il y a un maximum, en fait, que les jeunes vont atteindre et peut-être passer à un autre protocole par la suite.
Comment ça se passe quand ils sont face au robot, ces jeunes ?
Ils l'acceptent immédiatement. Dans notre approche, face aux autistes, nous n'avons jamais utilisé le robot comme une marionnette. C'est-à-dire, ce sont les enfants qui le programment. Ils le font parler, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose qu'ils font pour s'exprimer à travers le robot. Mais pas seulement, ils le font bouger. C'est-à-dire, en 20 séances, on leur fait raconter une histoire avec leur propre voix. On fait jouer cette voix donc, sur le robot. Et ils vont programmer les mouvements et les émotions sur le robot directement. Donc ce robot est réellement, du début à la fin, une extension. On ne leur a jamais dit, regarde, c'est un petit garçon ou autre chose. Mm-hmm. Non, c'est réellement leur extension et ils se l'approprient totalement.
Et ils l'abordent avec plaisir ?
Avec plaisir. Ils sont ravis d'être là et puis bon, ils font des progrès extraordinaires aussi. Ils sont excellents dans la programmation du robot.
Avec ce petit robot Nao, donc, vous réussissez à faire exprimer des choses aux autistes, mais pas seulement. Vous menez aussi des expériences avec des personnes âgées.
Tout à fait.
Mais racontez-nous.
Alors, les personnes âgées, bon, c'est toujours au niveau cette fois-ci du mouvement. On revient sur le mouvement. Comme je vous disais, ce petit robot, on l'aime très facilement. Alors, il y en aura d'autres peut-être de taille plus grande, comme un mannequin virtuel aussi qu'on peut construire. En lui donnant une bonne tête. Donc ce robot n'est pas un humain. On peut lui demander n'importe quoi à ce robot. À un humain, on n'osera peut-être pas. À un robot, on peut lui dire n'importe quoi. Une personne en situation de faiblesse, une personne âgée par exemple, va aller faire ses courses, elle n'osera pas sonner chez son voisin pour dire est-ce que vous pourriez m'accompagner parce que je n'ai plus la force de porter le sac. À un robot, vous pouvez lui dire. C'est une assistance, mais sans être un humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles en fait, de soumission ou de gêne comme on a pu les développer dans la société. Du coup, ça ouvre toutes les perspectives directement dans l'intimité des gens qui en ont besoin. Donc, évidemment, avec les autistes, avec les personnes âgées. Donc, les personnes âgées, c'est au niveau des mouvements, pour les forcer à faire des mouvements. Avec un humain, elles vont des fois passer dans la plainte en disant qu'elles sont trop fatiguées, que ça ne va pas, qu'il y a une espèce de communication ou autre avec le robot. Elles vont même pas réfléchir, elles vont faire tous les mouvements. Et ça, c'est extraordinaire.
Donc il peut y avoir des robots de compagnie.
Exactement.
C'est ça.
Exactement. Mais c'est vers ça qu'on se dirige. Je pense qu'Aldébaran désire absolument avoir le robot de compagnie. C'est son objectif.
Francis Eustache, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des robots ?
Moi, je trouve ça fascinant quand c'est fait de cette façon. Enfin, en tout cas, tel que je l'entends là. Parce qu'il y a toute une réflexion autour sur... Il y a bien sûr la technologie qui est... tout à fait fascinante. Et puis il y a aussi l'utilisation qu'on en fait, donc avec différents groupes de personnes, que ce soit dans le cadre du spectre autistique ou que ce soit chez des personnes âgées éventuellement avec des maladies du cerveau. Moi je trouve que c'est très très intéressant. C'est des pistes qu'il faut pousser. Il faut que la recherche, là aussi pluridisciplinaire, avance sur ces terrains-là.
Et oui, c'est ça, le secret de la recherche, c'est ça, c'est la pluridisciplinarité. On a parlé de la physique et de la chimie tout à l'heure, mais vous travaillez avec des mathématiciens, des informaticiens, et qui d'autres encore, des psychologues.
Des psychologues, des médecins, bien entendu.
Évidemment. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de vos tablettes. Vous nous avez promis de parler de vos tablettes.
Alors, les tablettes, c'est un peu le pendant de ce qu'on vient d'écouter avec les robots, parce que les robots sont des techniques quand même très, très sophistiquées. Les tablettes aussi, mais en fait, c'est l'objet le plus offert, j'ai entendu, à Noël. Enfin, en fait, ce sont des objets qui ont gagné en ergonomie, qui sont utilisés presque par tout le monde.
Et qui permettent de faire beaucoup de choses. Et qu'en faites-vous ?
Et qui sont utilisés maintenant, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais ce type de technique est maintenant utilisé aussi par les personnes âgées. Donc c'est cette réflexion-là qui nous pousse à développer des programmes, là aussi avec des informaticiens, des spécialistes d'ergonomie, etc., sur un moment de transition dans la vie de certaines personnes qui est très important, qui peut être dramatique dans certains cas, qui est l'entrée dans une maison de retraite. Le passage à la maison de retraite, pas forcément chez des personnes qui ont des troubles cognitifs importants, mais qui peuvent avoir des troubles cognitifs, soit parce qu'il y a une pathologie cérébrale, soit parce qu'il y a des éléments dépressifs, etc. Ça peut être lié à différentes choses. Et donc l'idée, c'est de permettre, tout du moins faciliter ce passage en aidant la personne à conserver une ligne de vie autobiographique, c'est-à-dire son autobiographie. Alors on pense bien sûr au passé.
Soyez plus précis.
Alors l'autobiographie sont des photos qui correspondent à différentes périodes de vie. Une vie qui est partagée, puis une vie qui est plus personnelle, avec l'utilisation de photos personnelles qui vont être implémentées par la personne elle-même, par sa famille. Mais le but, c'est également, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure, d'être prospectif. C'est-à-dire de ne pas faire en sorte que cette personne reste dans son passé, même si c'est important, le lien avec le passé, mais intégrer également, et c'est tout l'intérêt de ces ergonomies quand même assez faciles à utiliser, mais implémenter également des choses nouvelles. C'est-à-dire que ce que la personne va vivre, des choses nouvelles, à la fois dans l'institution, à la fois à l'extérieur de l'institution, quand elle va sortir de cette institution pour aller visiter un musée ou autre chose, avec d'autres personnes qui sont présentes dans l'institution. Et donc la tablette, elle est à la fois le lien avec la spécificité de la personne, son passé, mais elle est également dans la formation d'un nouveau lien.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a sur la tablette ? J'ai bien compris.
Ce sont des photos.
Il y a les photos d'hier ou d'avant-hier. Voilà. Mais comment est-ce que vous enrichissez la tablette avec les événements à venir ?
Alors, on l'enrichit avec... ça peut être des liens avec des sites, etc. Mais c'est surtout... On travaille surtout sur des photos. Et c'est-à-dire que la personne peut prendre de nouvelles photos. On peut lui donner de nouvelles photos. Et comme ça, elle reconstitue. Et on... C'est une aide, hein. C'est une aide. Je pense qu'il faut pas, il faut bien concevoir que c'est un outil. Hein. C'est un outil qui permet à la personne, quand elle le veut, dans son intimité, eh bien, de continuer de construire cette autobiographie au jour le jour.
Et cet objet tablette, il est bien accepté par les personnes âgées ?
Alors, de plus en plus, parce que c'est un peu la réflexion de départ, c'est que ces outils, ils sont omniprésents, donc on peut les critiquer, je crois que c'est bien de critiquer, je pense qu'il faut toujours avoir un avis critique, il ne faut pas non plus se faire envahir totalement, mais je pense que ça fait partie de notre vie et c'est une utilisation qui est de plus en plus omniprésente et donc c'est un moyen qui doit être utilisé.
Sonia Garcia, les tablettes dont vous nous avez parlé tout à l'heure qui permettent de dépister des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, elles sont bien acceptées par les patients ?
Alors, c'est tout à fait différent comme type de tablette.
Bien sûr, oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tablette grand public, etc. Là, pour le coup, c'est un dispositif qui peut être qui est de grande taille quand même. C'est plutôt fait pour dépister dans le cabinet médical quand la personne va consulter parce qu'elle ressent une gêne. Voilà, elle a des oublis, il lui manque des mots, etc. Et elle va consulter. Voilà, là, par contre, nous, ça nous intéresse à plus long terme de travailler sur des tablettes grand public également. Ces tablettes, en fait, ont l'avantage de pouvoir acquérir l'écriture ou faire du dessin, par exemple, avec le doigt. Mm-hmm. Ce qui facilite aussi pour des personnes qui ont du mal à tenir le stylo. En revanche, on perd certaines informations, comme la pression du stylo qu'on a dans le cadre de ces tablettes
spécifiques. Dédiées à l'écriture.
Voilà, mais on pourrait tout à fait imaginer, on vient d'entendre
Francis Eustache
parler de tablettes avec des photos, on pourrait imaginer que la personne a fait des commentaires sur ses photos et elle le fait avec son écriture. Elle écrit un petit journal de bord et on pourrait tout à fait imaginer analyser son écriture en tâche de fond de manière tout à fait naturelle. Voilà.
Voilà ce qu'on pourrait voir dans les années à venir.
Voilà, sauf que voilà, ça pose d'autres problèmes, évidemment.
Daniel Mestre, qu'est-ce qu'on pourrait voir chez vous dans les années à venir ?
Alors, le rêve, c'est que les patients puissent se soigner eux-mêmes. Le rêve, c'est d'avoir de la thérapie à la maison.
Oui.
Et pas être obligé d'aller dans des centres comme le mien, qui sont très coûteux, très compliqués, il faut amener les patients, enfin, il y a des tas de contraintes. Mais on n'en est pas encore là. Aussi parce que la thérapie elle-même est encore assez intuitive.
Bah, si vous mettez une tour Eiffel virtuelle chez moi, moi je ne rentre plus à la maison.
Hein. Ah ouais, non mais je veux dire, c'est un peu l'idée de démocratisation. On parlait des tablettes, mais de la réalité virtuelle en général, c'est l'idée qu'effectivement on puisse en faire chez soi de manière simple. On n'en est pas là, mais en même temps, on sent bien que la réalité virtuelle est en train de pénétrer notre vie à travers tous les outils connectés. Donc c'est ça, c'est l'évolution. Donc où ça va aller, on ne sait pas vraiment.
Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elle peut vraiment nous aider. Jean-Louis Viovi, vous nous avez parlé de ces neurones que vous savez maintenant cultiver. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour les implanter chez des personnes qui ont des problèmes de neurodégénérescence?
Oui, bien sûr, ou de neurodégénérescence, ou d'ailleurs, exactement dans la suite de ce que disait Madame Saka, puisque c'est quelque chose d'assez naturel. On s'est inspiré de la microélectronique, on a donc des techniques qui sont naturellement compatibles avec toutes ces microélectrodes. Or, l'interface homme-machine, bien sûr, tant qu'on a des sens qui fonctionnent bien, il y a les interfaces homme-machine non-invasives, que sont les tablettes, les capteurs, et qui font des progrès extraordinaires. Mais quand on a des problèmes de connexion, soit parce qu'on a un membre qui a été lésé, soit pour des problèmes éventuellement congénitaux de cécité, d'audition, etc., il y a des cas où c'est le capteur lui-même qui ne fonctionne pas. Et on va souhaiter remplacer ce capteur par un capteur électronique. Et ça existe déjà, par exemple, au niveau auditif, etc. Mais là où les systèmes sont limités aujourd'hui, c'est que finalement, on a ce capteur électronique. On va venir le mettre en contact, comme on peut, avec des microélectrodes, avec le système nerveux humain. Mm-hmm. Mais on demande au système nerveux de faire tout le travail, de se rééduquer pour apprendre... réapprendre, et c'est aussi, je pense, une des raisons pour laquelle ça demande autant en termes de mental pour les personnes. Alors l'idée qu'on a, c'est que on développe des outils bien plus puissants avec ces laboratoires sur puce pour guider la pousse des neurones, donc pour faire des systèmes de connexion beaucoup plus précis, avec un nombre de connexions avec des électrodes mieux contrôlées et beaucoup plus grands. Et donc faciliter en quelque sorte cette connexion homme-machine, en particulier pour des choses qui vont être très complexes, comme la vision ou l'audition. Il y a des projets en ce sens à l'Institut de la Vision, par exemple.
C'est fabuleux. Et vous avez un rêve, monsieur Viovi ? Un rêve de chercheur ?
Bah oui, de voir Oui, de voir les choses qu'on développe dans le monde réel. Alors, ceci dit, on a déjà, il se trouve que moi je suis très impliqué dans ce qui est innovation, création de start-up et choses comme ça. Donc, on a déjà certaines inventions de l'équipe qui se sont retrouvées dans le monde réel pour du diagnostic de cancer, par exemple, où là, actuellement, c'est ces systèmes pour le criblage pour l'industrie pharmaceutique qui sont plus simples que les connexions en machine dont je parlais. Sont déjà utilisés par l'industrie pharmaceutique grâce à une start-up Microbrain qu'on a créée. Donc voilà, moi mon rêve c'est vraiment de pousser les choses aussi loin qu'on peut vers les utilisateurs.
Oui, vous avez reçu de nombreux prix, dont la médaille de bronze du CNRS, deux prix OSEO à la création d'entreprises innovantes. En fait, vous êtes un chercheur très très actif. Et vous avez un rêve, Sophie Sacca?
Alors, mon rêve, il va tenir en deux mots, c'est « lève-toi ». Alors, pour vous, ça ne veut rien dire.
Si, je comprends.
Voilà, ça tient en deux mots.
Et vous, monsieur Mestre, Daniel Mestre?
Ah. Est-ce que j'ai un rêve?
Vous l'avez réalisé, peut-être?
Non, mais le rêve, c'est simplement que la réalité virtuelle est un terme antinomique, puisque c'est réel et virtuel en même temps. Et le rêve, c'est effectivement, c'est ce que poussent certaines personnes du genre Oculus, Facebook aux États-Unis, c'est effectivement que ça devienne quelque chose de qui pénètre de plus en plus nos vies et qui permette en fait de dépasser les limites du réel.
Sonia Garcia, pour terminer.
Oui, j'ai le rêve de pouvoir appliquer les mêmes techniques sur les enfants autistes pour le dépistage justement précoce de l'autisme. Voilà.
Vous allez peut-être pouvoir en parler avec Sophie Sacca.
Le projet robotisme qu'on mène à plusieurs partenaires est totalement ouvert et le but de la publication gratuite et l'accès au protocole est justement d'ouvrir à tous ceux qui s'y intéressent ou tous ceux qui en souffrent.
Merci beaucoup, merci à tous, merci Francis Eustache, merci Sophie Sacca, merci Jean-Louis Viovi, Daniel Mestre et Sonia Garcia, merci infiniment et merci aussi pour ces recherches que vous menez et qui sont très importantes pour nous tous. Prochain rendez-vous Wiki Radio du CNRS à 16h, on parlera des apports de la high-tech dans le domaine de la santé et notamment dans les salles d'opération, dans les blocs opératoires. Merci à tous et à tout à l'heure.
Merci.
Merci.
Merci.